Nous bénissons Dieu qui nous fait cette grâce d'être encore là ce soir. Avant de commencer, je voudrais vérifier s'il y a quelqu'un qui serait là pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Ah, nous disons gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors nous voulons ensuite voir ceux qui ont déjà participé deux fois. Donc c'est votre deuxième fois depuis lundi. C'est votre deuxième fois. Merci. C'est votre troisième fois. Vous avez déjà participé trois fois. Merci. Quatre fois. Merci. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes vraiment en train d'être bénis par cette semaine que la paroisse a dédiée à ce séminaire sur l'indépendance financière. Comment les chrétiens peuvent arriver à être financièrement indépendant dans leur marche avec Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes au quatrième jour de ce séminaire qui a été introduit le dimanche. Nous allons parler des étapes et principes à suivre pour réussir dans l'entrepreneuriat sous une approche biblique afin de maintenir l'indépendance financière. Lorsque nous parlons de maintenir l'indépendance financière, nous partons du fait qu'il y a plusieurs qui ont eu à goûter l'indépendance financière, mais ils n'ont pas su maintenir. Et plusieurs ont des bons souvenirs de l'ancien temps. Il y a même ceux qui prient si le passé pouvait encore revenir. Parce qu'ils ont les souvenirs de leur indépendance financière, mais ils sont après tombés encore dans la dépendance financière. Alors, plusieurs versets bibliques vont nous guider aujourd'hui, que vous avez vu. Et tous ces versets convergent vers les principes que nous, les chrétiens, nous devons suivre pour non seulement atteindre cette indépendance financière, mais surtout la consolider et que nous arrivions à maintenir l'indépendance financière pendant toute notre vie jusqu'à la retraite. Alors, avant la lecture du premier passage biblique, comme nous avons cette section-là pour la première fois, nous allons faire un petit résumé de la journée d'hier. Hier, c'était le troisième jour. Nous avons développé cinq points. Et les premiers points, c'était autour des fondements bibliques de l'entrepreneuriat. Nous avons vu que être entrepreneur, ça vient d'une instruction divine. Genèse 2,15. Dieu nous a créés pour multiplier et pour garder, gérer ce qu'il a mis en notre possession. Et nous avons vu un exemple pratique de la multiplication avec la reproduction des maïs. Nous avons vu aussi la Genèse 30, de 27 à 30, à travers l'expérience de la séparation de Jacob, de son patron et bon père, Laban, qui lui a proposé de fixer lui-même son salaire. Laban a dit à Jacob, « Fixe-moi le salaire que tu veux, mais pourvu que tu restes. » Je ne sais pas si parmi nous, s'il nous était arrivé que nous proposions les salaires que nous voulons, combien seraient prêts à quitter pour aller vivre le stress de l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut dire que tout début d'une vie entrepreneuriale implique beaucoup de stress. Mais nous avons dit qu'après, lorsque ça va marcher, ça vous apporte un grand soulagement et les gens vous envient. Rares ceux qui sont enviés dans leur moment de début de l'entrepreneuriat. Souvent, ce sont des moments qui demandent beaucoup de sacrifices et plusieurs ne sont pas prêts à y consentir. Mais ici, nous avons vu que Jacob a fait la différence Alors qu'il lui a été proposé de fixer lui-même la rémunération qu'il veut, il a décidé de quitter. Et grâce à la décision de Jacob, Jacob est devenu riche. Si nous lisons Genèse 30, 43, que nous n'avons pas lu hier, mais que je vais lire vite des passages, cet homme qui est Jacob devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. En fait, quand on dit que quelqu'un a des servantes et des serviteurs, d'abord ça veut dire qu'il a une grande villa, n'est-ce pas? Dans le contexte actuel, quand on dit que vous avez beaucoup de servants et de serviteurs à votre disposition. À l'époque de Jacob, lorsque vous avez des chameaux, des ânes, cela serait comparé aujourd'hui à quoi? À un charroi, donc il avait un parc, un parking rempli de véhicules. Et là, c'est un exemple que nous avons eu dans la Bible, donc Jacob, qui a pris la décision d'entreprendre que de rester dans le confort du salaire. Il faut dire que le salaire vous donne le confort. Parce que pendant que le salarié prie que la fin du mois arrive vite, l'employeur, lui, l'entrepreneur, il vit le stress. Il se pose la question, est-ce que les comptes sont alimentés pour qu'il puisse payer les salaires? Et Jacob choisit l'autre vie. Il a choisi d'être entrepreneur. Dans le troisième point hier, disons dans le deuxième point, nous avons vu la définition de l'entrepreneuriat. Et nous avons vu que l'entrepreneuriat, c'est le fait pour nous d'initier ou de lancer une activité nouvelle qui génère du revenu en apportant une solution à un problème. Et cette solution est proposée à des personnes qui ont le pouvoir d'achat de la payer. Et nous avons vu que l'entrepreneuriat nous permet de contribuer au développement socio-économique. Dans le troisième point hier, nous nous sommes posé la question, pourquoi entreprendre dans notre contexte? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que j'ai vu plusieurs me demander à la fin de ce genre d'enseignement, est-ce que ça vaut la peine aussi pour moi d'entreprendre? Peut-être cette question bouillonne à vous, peut-être toute la nuit ça revient à vous, vous ne l'êtes pas encore, mais vous posez la question, est-ce que ça vaut aussi la peine pour moi d'être entrepreneur alors que je suis déjà bien? Nous avons vu plusieurs raisons et je vais revenir sur certaines de ces raisons-là. D'abord, le fait que nous avons beaucoup de problèmes non résolus et qui peuvent être résolus par l'entrepreneuriat. Le fait que nous importons presque tout ce que nous consommons, ça nous invite à entreprendre pour relever ces défis. Nous avons vu que dans le domaine des services, nous avons encore des sérieux soucis de qualité et nous avons besoin des entrepreneurs qui viendront améliorer la qualité des différents services. Ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat sont loin à répondre aux besoins. Et nous avons vu hier qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans la pisciculture, dans l'agriculture, dans l'élevage. Et si vous commencez, le marché est ouvert. Nous avons plein d'opportunités et ces opportunités aujourd'hui attirent beaucoup d'étrangers. Mais malheureusement, nous les Congolais, c'est comme si nous voyons notre pays en obscurité et les autres qui sont dehors voient la lumière. Alors j'ai pris que Dieu nous aide aussi à ouvrir les yeux et voir ces opportunités qui attirent les Indo-Pakistanais, les Libanais, les Chinois et d'autres. Maintenant, vous allez voir, il y a même beaucoup d'Ouest-Africains qui viennent s'installer à Kinshasa parce qu'ils ont vu qu'il y a des opportunités. Et nous qui sommes ici, nous savons maintenant qu'il y a des coins où vous pouvez trouver des boutiques qui sont animées par ceux qui sont venus de l'extérieur parce qu'ils ont vu des opportunités. Le marché de la RDC est très ouvert pour tout ce que vous pouvez y apporter. C'est une raison pour vous d'entreprendre. Et au finish, nous avons vu que l'entrepreneuriat, c'est la voie incontournable qui va vous amener vers l'indépendance financière. Nous avons vu que les salaires, même s'il est très élevé, il est calculé de façon à ce que vous les consommiez, sauf ceux qui ont la sagesse de mettre à côté une partie pour entreprendre, arrivent à maintenir l'équilibre à long terme. Maintenant, étant déjà convaincu que nous devons être entrepreneurs, la question souvent c'est de savoir quelles sont les options. Est-ce qu'il y a aussi des options pour moi? J'en ai vu qui m'ont dit, mais moi je veux être entrepreneur, mais je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas quoi faire. Alors nous avons vu qu'il y avait plusieurs options, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, la transformation des produits agricoles, les services, et là nous avons les transports, la restauration, la couture, la coiffure, les médias, les garages automobiles, la plomberie, la maintenance électrique, l'entretien et le nettoyage des bâtiments, le gardiennage, la sécurité, la garderie des enfants, autant d'options où chacun de nous peut trouver son compte. Nous avons aussi dans l'industrie la savonnerie, la peinture, la briqueterie, la confection des tenues de travail, les habits, la production des habits prêts à porter, la production des meubles, ainsi de suite. Nous avons aussi la santé, l'environnement, l'éducation, les numériques, pour ceux qui sont digitales comme mon frère Power, qui aime trop l'informatique. Donc vous avez aussi les numériques. Et tous mes amis qui sont là aux médias qui nous font un service magnifique. La microfinance, la banque, ainsi de suite. Voilà autant d'options. Donc, c'est pour dire que vous ne pouvez pas vous dire que moi, j'ai des excuses à me faire parce que je ne sais pas quoi faire. Je pense que dans tout ce que nous avons cité, chacun de nous peut tirer quelque chose et dire, moi, je vais commencer ceci. En fait, l'Église n'est pas une école d'entrepreneuriat, mais nous référons à la parole de Dieu dans Osée, « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Nous sommes appelés, comme Église, d'ajouter cette connaissance à l'Évangile que nous avons reçu. Et c'est là pourquoi, c'est là pour élever les défis que nous venions de nous rappeler. Et c'est très capital pour nous comme enfants de Dieu. Et donc, il ne faut pas dire que non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce n'est pas intéressant pour moi. Mais prenez votre décision de vous lancer dans une activité. Et vous allez voir que votre vie va connaître un changement parce que vos sources de revenus vont être multipliées. Et pour terminer, hier, nous avons parlé de facteurs favorables à la réussite dans l'entrepreneuriat. Et d'abord, il fallait faire un bon choix de votre projet. Et l'élément clé lorsque vous voulez vous engager dans l'entrepreneuriat, c'est de faire un bon choix, choisir un projet qui est compatible avec vos talents, vos aptitudes, vos connaissances et vos compétences. Choisir un projet qui ne cadre pas avec ces éléments vous prédispose à l'échec. Faire une bonne analyse de ce que vous voulez exploiter comme opportunité et bien planifier avant de vous lancer. Mettre Dieu au centre de votre initiative, parce que Psaume 127, 1 à 2 nous dit que si Dieu ne bâtit pas la maison, c'est à vain ce que vous faites. Associez Dieu, apprenant le temps de prier et entreprendre dans la voie qui plaît au Seigneur. Il faut être décisif, déterminé et moins craintif. Commencez petit avec vos moyens de bord, être disponible pour le développement de votre projet, choisir une bonne équipe, choisir des bons partenaires, pratiquer la bonne gouvernance, bien analyser toute décision de prise de crédit. Vous voulez prendre un crédit, il faut que la décision soit bien analysée pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle cercle vicieux de l'endettement. Évitez une diversification prématurée, diversifiez votre portefeuille quand l'activité est maîtrisée, restez attaché à vos valeurs, et nous parlons plus des valeurs chrétiennes. Voilà, en 15 minutes, nous venons de résumer ce que nous avons vu hier. Et j'espère que si ceux qui n'étaient pas là sont à jour avec nous et que peut-être il y a un aspect qui vous a échappé et pour lequel nous venons de faire un rappel. Nous allons nous focaliser aujourd'hui sur un point unique, mais qui aura 10 sous-points et qui porte autour du sujet intitulé « Étapes et principes à suivre pour réussir dans l'entrepreneuriat » et cela sous une approche biblique afin de maintenir l'indépendance financière. Et donc, nous allons voir quelques étapes à suivre, Média, pour se lancer dans l'entrepreneuriat tout en marchant dans la voie de Dieu. J'aime beaucoup cette image qui est devant nous. C'est une image de quelqu'un qui est en train de monter les escaliers. Et vous savez, monter les escaliers, ça nous demande un peu de tact parce que vous n'y allez pas vite, si pas vous allez faire un accident. Donc la personne est en train de marcher comment ? Doucement, en montant les escaliers. Et l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui nous invite à marcher comme celui qui monte les escaliers. Pas dans l'ascenseur, non. Vous connaissez, là, maintenant il y a des ascenseurs à Goma. Si vous n'en connaissez pas, il faut aller à Goma marcher, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas au courant. Il y a maintenant beaucoup de maisons à Goma qui ont des ascenseurs. Donc vous pouvez taper sur une touche et d'un clin d'œil, vous êtes directement au cinquième étage. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. L'entrepreneuriat nous invite à marcher sur les escaliers. Donc aller doucement, doucement, doucement. Et maintenant, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les étapes et les principes à suivre pour vous lancer dans une approche biblique afin d'atteindre et maintenir l'indépendance financière. Notez qu'il y a deux choses. Il y a atteinte de l'indépendance financière et il y a maintien. C'est deux choses différentes. Si vous parcourez l'histoire des uns et des autres, il y en a qui vous diront que nous, quand avant, on était comme ça. Et on a des souvenirs. Mais l'un des objectifs de ces enseignements, c'est de nous donner les connaissances à travers la sagesse que nous tirons de la Bible. Comment je peux arriver à atteindre, mais surtout comment je vais maintenir. Nous avons vu des grands qui ont chuté. Et ceux qui ont émergé, encore ils ont fait quoi ? Encore ils ont chuté. Et nous allons voir pourquoi et comment nous pouvons éviter cela et faire la différence. La première chose, la première étape, si vous voulez vous engager dans l'entrepreneuriat, nous lisons dans Matthieu 25, verset 25. Je lis ceci. Nous sommes dans ce qu'on appelle parabole des talents. Et nous lisons le 25e verset seulement. C'est le troisième serviteur qui dit ceci au maître. « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Donc l'élément principal qui nous empêche, c'est la peur. La peur de prendre la décision de vous engager. J'ai vu plusieurs qui m'ont dit que ils savent déjà c'est quoi l'entrepreneuriat, ils savent ce qu'il faut faire, ils connaissent les opportunités, ils ont les moyens, mais ils ont peur de commencer. Ils ont les capitaux, ils ont tout, ils voient le marché ouvert, mais ils ont peur de commencer. Et quand nous entrons à l'intérieur du contexte de ce troisième serviteur, au vrai sens, il n'était même pas assez condamnable. Parce que le talent, il a retourné, n'est-ce pas? N'est-ce pas que ça vous est arrivé de confier à quelqu'un de l'argent pour utiliser et il vous dit Zilishaomba. Ça veut dire quoi? Vous lui avez donné 10, il vous remet combien? Soit 5 ou 0. Il dit que c'est perdu. C'est arrivé à plusieurs, n'est-ce pas? Mais celui-ci, il n'a pas perdu les talents. Les talents est là. Et les talents étaient intacts. Les talents n'étaient même pas rouillés. C'était intact. Mais nous réalisons que le maître le condamne et lui dit, tu aurais dû placer ça où? À la banque. Et générer quoi? Des intérêts. Ça veut dire quoi? Nous avons vu hier, à travers plusieurs passages bibliques, que nous devrions travailler. Nous devrions travailler dur. De tôt le matin jusqu'à tard le soir. Et un président, dont je ne cite pas le nom, a dit ceci, que nous devrions travailler dur jusqu'à ce que ça fasse trop mal. Parce que la pauvreté fait plus mal. Est-ce que ça nous est arrivé de travailler et nous sentons que ça fait mal? Mais nous, les Congolais, nous aimons trop les relax. Déjà, quand il est 16 heures, on veut quitter et arrêter. Et on veut se relaxer. On va relaxer. Nous avons vu que même si vous êtes employé, vous avez un bon salaire, capitalisez les restes de votre temps pour réaliser une activité qui vous donne un revenu additionnel. Parce que c'est ce revenu additionnel qui va vous ouvrir la voie de l'indépendance financière. Et si vous êtes craintif, je vous prierai de demander à Dieu de vous donner le courage et la force d'affronter les risques. Que Dieu nous aide à relever les défis de la lourdeur des prises de décision de commencer. Il y a plusieurs, pour commencer, c'est très lourd. Alors nous avons besoin vraiment de la grâce de Dieu qu'il nous aide à relever ces défis. Deuxième étape, lorsque nous voulons nous lancer dans l'entrepreneuriat, après avoir chassé la peur, nous les trouvons dans Luc, chapitre 14, verset 28. Je vais lire. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir qu'il a de quoi faire quoi? La terminer. Ici, nous voyons que nous devons faire quoi? Planifier. Il y a plusieurs qui s'y sont lancés sans bien planifier, mais dès qu'ils ont commencé, ils sentent que son fonds de roulement n'est pas suffisant. Parce que vous pouvez commencer une activité et vous stimuler un besoin et la demande vous inonde et vous ne savez plus comment vous comporter. Alors c'est important de prendre le temps d'analyser et planifier avant de vous lancer. Et à part ce verset de Luc 14, 28, nous avons plusieurs autres versets bibliques qui nous parlent de la planification. C'est important de prendre le temps d'analyser et planifier. Il y a plusieurs qui se sont exposés à beaucoup de risques parce qu'ils n'ont pas pris le temps de planifier ce qu'ils vont faire, n'ont pas pris le temps d'analyser. Au troisième point, c'est racheter le temps en évitant la précipitation. Pourquoi nous disons en évitant la précipitation? Parce qu'il faut éviter de faire la précipitation en voulant racheter le temps. Racheter le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, chaque minute compte. Cette idée-là que vous aviez il y a 2 ans, vous n'avez pas encore commencé, vous venez de perdre les 2 ans. Ça ne vous est jamais arrivé de trouver un entrepreneur qui est en train d'émerger et vous vous sentez animé d'une culpabilité en disant « Mais j'avais cette idée même avant lui. » Et je les vois émerger et chaque fois que vous allez acheter, vous dites « Mais ça serait moi qui serais en train de faire ça. » Lorsqu'en 2008, nous avons commencé avec des amis une entreprise dans la gestion des déchets, j'ai vu beaucoup, quand ça a émergé et on a commencé à parler beaucoup, j'ai vu des gens qui venaient à mon bureau et disaient « Mais c'est vous qui faites ça ? Oh, j'avais ces projets, je l'avais même écrit. » C'est déplorable si vous gardez des projets dans votre tête et vous perdez le temps. Et nous avons dit hier que dans nos cimetières, il y a beaucoup de bibliothèques, donc des projets. Beaucoup de gens ont été enterrés avec des projets dans leur tête. Parce qu'ils n'ont pas racheté le temps. Et nous avons vu hier et avant-hier que le temps, c'est l'unique ressource que Dieu nous a allouée équitablement. Aujourd'hui, nous les Congolais, nous sommes enviés par tous les pays du monde parce que la façon dont les richesses ont été concentrées chez nous, c'est dit proportionnel par rapport à d'autres pays, ce qui fait que nous soyons l'objet de quoi? De la convoitise. Et même quand nous voyons la RDC, il y a des zones qui sont favorisées par rapport à d'autres. Nous qui sommes au bord des frontières, le long des frontières, nous sommes privilégiés par rapport à ceux qui sont à l'intérieur. Par exemple, celui qui est à Kindu, c'est difficile pour lui d'être entrepreneur que moi qui suis où? À Goma, parce qu'à Goma, vous pouvez prendre votre avion directement et aller à Dubaï. Mais celui qui est à Kindu, lui, doit encore prendre un autre avion pour venir à Goma. Donc vous voyez que même ça lui coûte trop cher. Et même quand son cargo va arriver ici, lui doit encore payer un autre cargo. Donc vous voyez que nous sommes favorisés de manière différente. Peut-être que celui qui est à Kinshasa est encore favorisé plus que nous, parce qu'il y a d'autres vols qui sont directs. Il peut prendre les vols directs pour aller à Turquie, à France. Ils ont aussi encore d'autres avantages que nous, nous n'avons pas. Mais il y a une ressource que nous avons reçue équitablement. Ça s'appelle quoi? Le temps. Racheter le temps, bien gérer le temps, c'est un des facteurs qui va nous prédisposer à réussir. Et ceux qui émergent dans l'entrepreneuriat sont ceux-là qui souvent, dès qu'ils ont une idée, ils ne tardent pas. Ils prennent le temps de la mûrir et ils peuvent même programmer un voyage de prospection. Ne soyons pas parmi ceux-là qui gobent, qui cumulent, qui thésaurisent des projets. On ne parle pas de thésauriser, on parle de thésauriser l'argent. J'utilise abusivement les concepts. Donc, vous avez des projets que vous gardez pour rien. Vous n'avez même pas essayé. C'est vrai, c'est une décision lourde de commencer, mais c'est important de la prendre et de commencer cette activité qui va vous mener vers le chemin de l'éducation, disons de l'indépendance financière. Alors, pour continuer, nous allons lire Luc chapitre 16, verset 10. Ça nous dit ceci. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Quelle leçon nous apprenons de ceci? C'est de démarrer toujours en petit format. Lorsque vous voulez entreprendre, ne vous dites pas, je vais commencer quand j'aurai 1000 dollars. Non. Si vous voulez faire le commerce, commencez avec les 10 dollars. Moi, chaque fois que je paye des bananes chez des mamans, je fais un peu de calcul rapide. Je me dis, cette maman, elle n'a que ses bassins comme capi. Vous êtes déjà interrogé la question, posé la question de savoir cette maman, son capital est de combien? C'est un peu de compter les bananes. D'une banane, c'est 200 francs. Il y a à peine 100 bananes qui est là. Ça veut dire que tu peux parler de combien? 200. Là, c'est beaucoup. Ou bien celui qui vend les arachides sur un plateau. Un verre d'arachide à combien? 500 francs. Vous pensez que sur ces plateaux, il y a plus de 50 verres? Et donc, s'il a 40 verres sur les plateaux, c'est combien de francs? 500 francs fois 40 verres, combien? C'est 20? 20 000 francs. Donc, 20 000 francs, c'est son capital. Et vous avez un smartphone de 100 dollars, vous vous plaignez que vous n'avez pas du capital. Et cette maman n'a que 20 000 francs. Pas 20 dollars, 20 000 francs. C'est 10 dollars comme capital. Et donc, ne vous plaignez pas que vous n'avez pas le moyen pour commencer. Commencez toujours en petit format, avec vos moyens propres, mais en étant animé d'une grande vision pour le futur. Cela vous permet de développer progressivement avec l'expérience acquise. Il n'y a aucune grande entreprise au monde qui a commencé grand. D'ailleurs, tous ceux qui ont tenté de commencer grand ont fait quoi? Ont fait l'échec. La plupart des projets qui ont fait preuve de réussite, ces projets ont commencé petit. Et donc, si vous pensez à une activité quelconque, ne vous dites pas, je vais commencer quand j'aurai ceci ou cela. Commencez déjà aujourd'hui. Vous voulez avoir une grande maison de confection? Achetez déjà une machine de couture d'occasion. Ça peut vous coûter peut-être 50 dollars. Et que vous avez un smartphone de combien? De 100 dollars. Et vous n'avez pas besoin de commencer à aller louer une maison. Commencez à faire à coudre même dans votre chambre, dans votre salon, dans votre balcon. Et les gens vont venir si la qualité... elle est à la hauteur. Cinquième principe, étape qu'il faut suivre pour réussir, il faut bien structurer et organiser votre activité. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, même des boutiques, vous venez acheter quelque chose, il prend le temps de les trouver. Il vous dit, il n'y a pas. Alors que il en a en stock. Ça vous est arrivé? Vous allez chez un commerçant, vous voulez acheter quelque chose, il vous dit, j'ai du mal à trouver ça. C'est vrai, non? Récemment, j'étais dans une boutique, j'ai dû même l'encourager, j'ai dit, je te donne encore 15 minutes, je me suis assis, prends le temps de chercher. Et en fin de compte, il a fait quoi? Il a trouvé. « C'était une boutique où je devais payer une paire de chaussures. Alors il a trouvé une paire, l'autre paire, il a manqué. Et au finish, il n'a pas trouvé ça. C'est le lendemain qu'il a trouvé ça. Alors si c'était un client qui était en train de voir, de voyager. Seulement parce qu'il n'a pas bien... Vous voyez les gens de supermarché. Pourquoi les supermarchés? Les gens ont une facilité d'aller dans les supermarchés. Parce que là, c'est segmenté par rayon. Vous savez que dans tel rayon, il y a ceci. Ça n'a pas été un fait de hasard. Et vous voyez, il y a des supermarchés où on peut avoir 100 clients au même moment, mais chacun va dans son rayon et trouve l'article. Parce que c'est comment? Bien organisé. J'ai vu des hôpitaux où quand vous arrivez, on doit prendre 30 minutes pour trouver votre fiche. Et vous êtes en train de frissonner. Vous voulez faire les examens. Mais aujourd'hui, avec l'informatique, vous pouvez facilement organiser avec une application. Nous, déjà en 2008, avec les concours des amis informaticiens, dont mon frère Bouambal, on a fait une application, n'est-ce pas? Et on avait plus de 1000 clients dans la gestion des déchets depuis 2008. Et une application en access, on utilise plus souvent aujourd'hui. Et quand un client venait, on cliquait, on voyait son relevé, son compte. Ça date depuis de 14 ans. On a fait ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent toujours la routine. La gestion tradition. Et beaucoup de commerçants, quand vous lui demandez, vous avez gagné combien cette semaine? Hein? Papa, vous savez la semaine passée, vous avez gagné combien? Ou bien papa Emery, papa Patrick. Alors aujourd'hui, nos amis informaticiens et nos jeunes chômes ici, vous ne les utilisez pas. Nous avons ici des génies en informatique. Vous l'invitez dans votre activité et lui aussi, il sera entrepreneur. En faisant quoi? Des applications de gestion. Aujourd'hui, avec l'informatique, les choses sont devenues faciles. Vous voyez même, je suis entré, mon enseignement est ici. Je n'ai pas besoin d'avoir quoi, des papiers. Des fois, on se perd dans les papiers, non? J'ai vu des fois, celui qui a la chair, un papier a glissé dans les autres. Et l'idée est perdue. Mais aujourd'hui, la technologie a résolu tout ça. Tout est déjà bien structuré. C'est juste question de faire comme ça avec les doigts. Alors, pourquoi j'insiste sur ça? La structuration et l'organisation est facile avec l'informatisation. Aujourd'hui, il y a des applications. Si vous avez élevage de poules, dès qu'il y a éclosion, vous mettez dans le logiciel. Et ça va vous donner la date de la maturité de ces poules-là. Est-ce que vous savez ça? Et quand vous recevez une commande, on vous pose la question, quand est-ce que vous allez vendre les poules? C'est tel jour. Je vais vous donner un témoignage frappant et je veux que ceux qui sont concernés puissent vraiment confesser. Pourquoi aujourd'hui on nous dit que les réparateurs, les couturiers, les menuisiers, pourquoi on dit qu'ils ne sont pas sérieux? J'ai eu le temps de m'approcher de ces gens-là. C'est seulement un problème d'organisation. Et nos bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils soient diacres, anciens de l'Église, ils sont toujours à tiraillement avec leurs clients. En tout cas, si vous êtes couturier ici, d'ailleurs, vous nous avez appris à mentir. Parce que quand j'amène ma tenue chez le couturier, je sais que le mariage sera le 15, je lui dis que c'est le 10. Et quand j'arrive le 10, c'est maintenant qu'il va commencer à couper mon tissu. Pour enfin le récupérer quel jour? Le 13 ou le 14, la veille du mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, mon peuple périt par manque de connaissances. S'il vous plaît, aujourd'hui, il est difficile de dissocier un menuisier chrétien et non chrétien. Ce n'est pas parce qu'il veut être farceur, mais parce qu'il n'a pas un petit outil informatique qui gère quoi? Les commandes. Moi, j'ai rencontré un couturier. Je pense que vous le connaissez. C'est Maître Osson. Vous le connaissez, non? Chaque fois que j'achète un costume, disons, une veste qui ne convient pas, je vais chez lui. Et lui, il te dit, lui, il vérifie d'abord, il te dit, selon mes commandes, tu n'auras pas ta veste avant 2 semaines. Vous les connaissez, non? En tout cas, même je l'ai visité la semaine passée pour un service. Lui, il prend le temps de voir les commandes qu'il a. Et un jour, j'ai été édifié, il m'a dit, demain, je ne vais pas travailler, ce sera l'enterrement, je ne vais pas te tromper. Mais combien de couturiers, vous arrivez, il a fermé son atelier. Et il a pris l'argent et il s'en fout. Alors c'est dangereux si vous êtes chrétien et que vous tombez dans ce piège de manque d'organisation. J'insiste encore, l'informatique, ça résout tout ça. Avec nos amis qui manipulent les algorithmes, il va vous faire une application qui gère les commandes de votre atelier de couture, avec une petite tablette, ou bien même votre smartphone. Et quand un client vient, vous cliquez dedans, vous vérifiez. Moi, aujourd'hui, je suis je ne vais pas dire un problème, mais certains serviteurs de Dieu ont difficile à me comprendre. Parce que lorsqu'une paroisse m'invite pour animer un séminaire, que j'ai dit que mon programme est full jusqu'à décembre, ils pensent que mina jivuna. Alors que c'est vrai, mon programme, moi, je peux le consulter et voir que jusqu'à décembre, c'est saturé. Par exemple, là, mon programme, maintenant, est saturé jusqu'en décembre. Donc, si vous m'invitez pour un séminaire, je vais vous dire, je suis disponible à partir du 15 janvier 2023. Et certains serviteurs de Dieu pensent que, m'envoie ma planification. Je pense que ce n'est pas nous qui avons inventé la montre. Et le temps fait quoi? Tourne. J'ai suivi un film où une famille avait un malade et ils sont allés dans une clinique où les malades devaient connaître l'intervention chirurgicale. Et le médecin a dit que si vous n'êtes pas opéré cette semaine, la prochaine disponibilité c'est dans 6 mois. C'était un médecin d'une spécialité de très haut niveau et il a des agendas, il a des sollicitations pour tourner dans le monde. Alors nos amis couturiers, menuisiers, réparateurs, électriciens, plombiers, mécaniciens, vous pouvez vraiment confesser, demander à Dieu de vous pardonner et donner du travail à nos jeunes informaticiens. Si vous avez un garage, il va vous aider à faire une application pour la gestion des commandes. Donc, quand un véhicule arrive, vous le mettez dans le système. Et vous pouvez dire, non, par rapport à votre panne, ça demande 6 heures de temps. On est saturé jusqu'à jeudi. Et aujourd'hui, on est lundi. Donc, vous, votre véhicule est programmé pour le vendredi. Mais ils ont peur de quoi? Ils ont peur que vous allez dire, je vais aller ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils prennent votre commande, en étant conscient qu'il ne va pas l'exécuter. Et nous allons à la compte de la volonté de Dieu en agissant ainsi. Que Dieu nous aide vraiment à être bien organisés et à éviter ce genre d'erreurs dans lesquelles certains d'entre nous sont tombés par manque de quoi? De planification et d'organisation. Sixième point et principe pour réussir dans votre projet d'entreprise ou d'entrepreneuriat, nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 4. Jacques, c'est vers la fin de votre Bible, après Hébreux. Donc, vous avez Jacques, chapitre 5, verset 4. Nous lisons ceci. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustré, crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Alors, qu'est-ce que nous voulons apprendre comme leçon de ce passage? Nous devons nous entourer de bonnes personnes, des ouvriers, collaborateurs, conseillers, et surtout bien les traiter. Dans ce passage, on parle plus du traitement. Et je vais beaucoup insister sur les traitements. Mais avant de parler du traitement, donc les paiements des personnes qui nous aident à mettre en œuvre ou réaliser nos projets, nous devons nous rassurer que nous avons sélectionné les bonnes personnes. En fait, si vous avez une boutique et que votre boutique marche bien, ne vous tapez pas la poitrine que vous êtes un excellent. Est-ce qu'il vous arrive à penser à cette personne-là? Grâce à son sourire, les clients peuvent revenir. Souvent, nous accordons peu d'importance à ces personnes-là. Alors que c'est grâce à eux, à elles, que votre projet arrive à faire quoi? À marcher. Vous savez, dans une entreprise comme une clinique privée, par exemple, la personne la plus importante, ce n'est même pas le médecin spécialiste qui va faire l'intervention chirurgicale qui va coûter 5 000 $. Mais la personne la plus importante, c'est celle-là qui est à la réception. Est-ce que vous le savez? Parce que c'est la portée d'entrée. Mais souvent, ces personnes-là, nous les minimisons. Nous leur donnons peu d'importance. Et nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés d'abord à nous rassurer que nous avons choisi de bonnes personnes. Parce que la réussite de votre projet dépendra de la qualité des personnes qui l'exécutent, qui vous accompagnent. Parce que vous ne pouvez pas tout faire seul. Vous savez, quand on va dans un restaurant, ce qui est important, ce n'est même pas seulement la qualité de la nourriture que vous avez mangée. Mais c'est quand vous allez vous soulager aux toilettes, quand vous trouvez que c'est trop sale. Est-ce que vous avez même l'appétit de manger? Non. Et donc cette personne qui entretient les toilettes dans un restaurant est parmi les personnes importantes pour que le restaurant ait la renommée. Mais comment ces personnes-là sont traitées? Alors la Bible nous invite à bien traiter surtout les personnes-là les moins gradées. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu écoute vite les cris des faibles. Et leurs cris ne sont pas une bénédiction pour vous lorsque ces cris sont suite à une non-satisfaction ou bien à un mauvais traitement. Et il y a une question que j'ai posée hier. Est-ce que les personnes qui travaillent pour vous prient pour vous que vous puissiez prospérer et émerger, ou bien ils prient que Dieu leur donne l'opportunité de se débarrasser, se séparer de vous? Nous devons nous rassurer que les personnes avec lesquelles nous travaillons se sentent épanouies et savent que l'entreprise va se développer avec elles, disons avec eux ou avec elles. Ça veut dire quoi? Nous devrions avoir un rapprochement avec ces personnes-là. De temps en temps, les écouter. Est-ce que votre travail vous épanouit? Moi, il arrive que j'appelle mes collaborateurs un à un. Je pose la question, est-ce que votre travail vous épanouit? Est-ce que vous voyez 5 ans dans cette entreprise? Mais souvent, nous avons peur de poser ce genre-là de questions. Parce que nous savons que à l'extérieur, il y en a qui proposent mieux. C'est vrai, la motivation aujourd'hui pour vos collaborateurs, ce n'est pas seulement les salaires, mais c'est aussi la façon dont ils se sentent épanouis sur les plans sociaux. J'ai vu des gens qui refusent de démissionner, qui refusent un salaire plus élevé parce qu'ils se sentent socialement épanouis Il se sent dans un bon environnement là où il travaille. Septième point, pratiquer la bonne gestion et être un bon modèle à toute votre équipe. La bonne gestion implique d'abord des principes de gestion. Les principes de gestion sont soit simplifiés ou complexes selon la taille de votre projet. Plus votre taille grandit, plus ces principes de gestion doivent être consolidés pour avoir des garde-fous afin d'éviter des pertes. Et nous avons beaucoup d'experts qui peuvent vous accompagner si vous avez un souci par rapport à ça. Huitième principe ou étape, si nous voulons réussir dans nos projets, nous allons lire quelques livres dans Proverbes. D'abord, nous allons lire Proverbes 13, 11. Nous lisons ceci. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Proverbes 15, 16. Nous lisons ceci. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel que grand trésor avec les troubles. Proverbes 16, 8. Nous lisons ceci. Mieux vaut peu avec la justice que des grands revenus avec l'injustice. L'injustice peut être quoi? C'est lorsque votre bénéfice mensuel est de 10 000 dollars, mais votre employé le plus payé, il a 50 dollars. C'est courant et choquant dans notre contexte de voir que des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, j'en ai vu même qui choquent. Lorsqu'il veut aller faire le shopping, il ne se gêne même pas. Moutoche mouke, c'est 100 dollars, il peut le voir. C'est une dépense d'un coup. Alors, moutoche, c'est 50 dollars, il ne peut pas le. Si Dieu est kilos à Nyama, il y a le. Et il le fait chaque jour. Et à la fin du mois, il va donner combien à celui qui gère? Mieux vaut peu avec mieux vaut peu avec la justice. Malheureusement, parmi ceux qui feraient ça, il y aurait des anciens de l'église, des diacres. Et peut-être nous les faisons par ignorance, on dit, mais c'est comme ça que tout le monde fait. Ce n'est pas que vous avez une mauvaise intention. Mais vous dites, c'est ça la pratique. Mais si c'est ça la pratique, faites-le même en secret. Faites-le même en secret. Faites-le de façon que les autres ne le sachent pas. Ici, la Bible nous appelle à faire quoi? À ne pas nous déconnecter des principes chrétiens dans le développement de notre projet. À pratiquer la justice. Et à ne pas vouloir gagner vite. Pourquoi nous payons mal ceux qui travaillent pour nous? C'est parce que nous voulons plus gagner. Mais posez-vous la question, cette personne, je lui donne 50 dollars, il va payer la maison à combien? Il n'a même pas une couverture médicale. Comment il fait lorsque sa femme est malade? Comment cette personne se déplace pour venir au travail? Et lorsque par son organisation, Dieu l'a béni, quand elle a son 50 dollars, il injecte ça dans un projet, madame fait du commerce, lorsqu'il paye sa petite moto pour venir au travail, vous les chassez qui vous a volé. Parce que votre système de gestion ne permet même pas de savoir si on vous a volé ou pas. C'est comme ça que la plupart de ceux qui payent comme ça, il y en a qui se payent. Vous lui payez 50, mais chaque jour, il prend 10 dollars. Et comme votre système est traditionnel, système de gestion, ce n'est pas numérisé, vous ne pouvez pas savoir si on vous a volé ou pas. Avec ce qu'on a fait avec mon frère Bawa 2008, l'application de gestion, nous gérions des sacs poubelles, des sachets où on met les déchets. Et on pouvait savoir qu'on nous a volé une pièce sur 20 000 sacs. Mais la plupart d'entre nous qui faisons les commerces, des fois on ne sait pas si on nous a volé ou pas. Et j'en ai vu même des femmes qui commencent les commerces, mais au lieu que ça s'accroisse, chaque mois, le mari doit encore injecter de l'argent. Mais vous, pourquoi vous continuez? Et chaque mois, vous dites, oh, ajoutez-moi encore le capital. Mais vous, votre business, c'est comment? Mais nous avons vu que celui qui avait reçu un talent, il avait remis un talent intact, mais vous, vous donnez un capital de 100 dollars. Le mois prochain, quand vous dites, ajoutez-moi encore. J'ai fait encore une perte. Avant de terminer, neuvième point, bien calculer vos bénéfices et payer correctement la dîme. Pourquoi nous insistons sur la dîme? Dans mes expériences avec beaucoup d'hommes d'affaires avec qui j'ai à échanger, ils m'ont prouvé que c'est difficile de payer la dîme pour eux parce qu'ils ne savent pas s'ils ont gagné combien. Et donc, si vous travaillez et que votre travail ne vous permet pas de calculer votre bénéfice, c'est sûr que vous ne payez pas la dîme. Alors, le dimanche, nous avons dit ceci, si c'est le cas pour vous, il y a une façon de vous déculpabiliser. C'est de mettre toutes vos dépenses sur un papier et que vos dépenses donnent X montant, chaque fin du mois, prenez le 1/10 de ces montants-là, allez donner comme votre dû. Et à la fin de l'année, faites un inventaire. Si en début de l'année, vous aviez un stock, disons une valeur nette de 10 000, et qu'à la fin de l'année, vous avez combien? 15 000, ça veut dire que vous avez gagné combien? 5 000. Vous devez la dîme de combien? De 500. Et je sais que certains commerçants ont déjà la discipline de faire l'inventaire. À la fin de l'année, on ferme, on écrit inventaire en cours. C'est quoi l'erreur de l'inventaire fait de l'année? C'est de vérifier vous avez gagné combien. Mais pourquoi nous sommes prêts à donner l'impôt sur les bénéfices? Vous savez, l'impôt sur les bénéfices est de combien? Ça atteint jusqu'à 30% de votre bénéfice. Les salariés payent combien les hyper? 15% de déduction sur les salaires et nous payons à l'État. Mais lorsqu'il s'agit de la dîme, nous nous faisons beaucoup d'excuses. Et j'ai dit la fois dernière, le dimanche, que c'est facile de donner la dîme de 10 dollars, de 100 dollars, de 1000. Mais quand Dieu vous bénit abondamment, nous ne donnons plus. Et nous limitons nos bénédictions et Dieu nous teste. Et Malachie est clair. Mettez-moi comment en épreuve. Si vous gagnez 1000, vous donnez la dîme correctement. Dieu va vous amener à 2000. Si vous payez encore correctement, vous amenez à combien? À 5000, à 10000, à 100000. Pourquoi pas à 1 million? Que Dieu nous aide à faire une auto-évaluation de la façon dont nous sommes fidèles par rapport à la dîme et que Dieu nous aide à prendre une décision de commencer à le faire différemment. Et pour clôturer, sachons comment gérer la prospérité et ne pas s'éloigner de la voie du Seigneur. Demain, c'est prévu que nous puissions répondre à vos différentes questions. Et ceux qui ont des questions, je vous prierai de les noter sur papier et les remettre soit à un diacre, soit à un pasteur, soit à un ancien de l'église. Et nous allons y répondre demain. Demain, ça sera sous un autre format. Nous allons faire un échange ouvert à répondre aux différentes questions. Mais le samedi matin, nous allons parler de comment gérer la prospérité. Si Dieu demain vous donne à gagner 1 million l'année, comment vous serez la même personne? Et choriste, vous gagnez 1 million et vous venez porter cette robe pour la gloire du Seigneur. Diacre, vous gagnez 1 million et vous venez servir comme un diacre. Je gagne 1 million et je viens toujours animer les séminaires. Et je donne le temps à cela. C'est très complexe. Le samedi matin, nous allons parler de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à détecter chacun là où nous avons failli par rapport à tout ce que nous venons de voir aujourd'hui. Si vous avez vu des opportunités passer devant vous et que vous n'avez pas su les capitaliser, que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir là où il y a eu des faiblesses que nous pouvons relever. Que Dieu nous aide à ne pas avoir la peur, à nous engager dans des initiatives qui vont nous aider à aller vers l'indépendance financière. Et que lorsque ça va marcher, que Dieu nous aide à rester attachés à lui et nous serons une référence, un modèle. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Mettons-nous debout pour la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Vous allez prier pour vous. Si quelque part Dieu vous a révélé que vous avez été en dehors de sa voie à travers un point de cet enseignement, demandez à Dieu de vous pardonner, de vous sanctifier. Peut-être c'est par rapport à l'organisation de votre business qui vous a amené à être une source pour enfoncer votre frère, votre soeur, votre client. Peut-être c'est à travers la façon dont vous avez traité vos collaborateurs, vos employés, vos agents. Vous avez été une source. Vous les avez choqués par votre comportement. Peut-être que Dieu vous a révélé que vous n'avez pas payé votre dîme correctement. Demandez à ce que Dieu puisse vous pardonner. Et prenez cet engagement que ça soit un nouveau départ pour vous aujourd'hui. Et qu'à partir de maintenant, vous soyez un bon modèle. Que Dieu nous aide à pratiquer ce qui est dans Malachie. Mettez-lui à l'épreuve et nous lui verrons agir dans nos vies. Élevons tous nos voix pour la prière. Oui, Seigneur Dieu, je te bénis parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Je te bénis, Yahweh, Seigneur Dieu, parce que tu nous as révélé, Seigneur Dieu, là où nous avons échoué, là où nous n'avons pas bien marché. Je prie, Seigneur Dieu, que tu révèles à mon frère et à ma soeur, Seigneur Dieu, là où il a déraillé de ta voix par rapport à la façon dont il a développé son projet, par rapport à la façon dont il a traité ses collaborateurs, ses semblables, par rapport à la façon dont il s'est organisé, Seigneur Dieu. Peut-être mon frère ou ma soeur a été une source, Seigneur Dieu, de choc pour son frère ou sa soeur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous pardonnes, que tu nous purifies, que tu nous sanctifies, Seigneur Dieu, que nous soyons encore dignes de nous approcher de toi, que nous soyons encore dignes, Seigneur Dieu, auprès de toi, Seigneur Dieu. Oh, pardonne-nous, Seigneur Dieu, sanctifie-nous et purifie-nous, Seigneur Dieu, pour ce qui a été en dehors de ta volonté, Seigneur Dieu, dans notre marche, dans notre vie d'entrepreneur, ou dans nos tentatives d'entrepreneuriat. Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur Dieu, à prendre cet engagement aujourd'hui, de faire un nouveau départ, de commencer à zéro, Seigneur Dieu, de prendre cet engagement. Merci Jésus parce que tu es miséricordieux, parce que tu es prêt à nous pardonner lorsque nous demandons pardon avec sincérité. Et aujourd'hui nous voulons nous engager avec un nouveau départ, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être fidèles par rapport à la dîme. Et ta parole dit que ton temple aura l'abondance avec tout ce que nous avons apporté comme dit. Bénis, Seigneur Dieu, tout celui qui a écouté cette parole. Que cette parole, Seigneur Dieu, puisse germer pousser et produire des fruits, Seigneur Dieu. Non seulement pour notre bien-être, pour le bien-être de ton Église, pour l'épanouissement de ton royaume. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas avoir la peur d'entreprendre. Aide-nous, Seigneur Dieu, à avoir des yeux ouverts pour voir des opportunités que tu as mises autour de nous. Aide-nous, Seigneur Dieu, à avoir les ressources qu'il faut pour démarrer ces projets que tu mets à mon cœur. Marche avec nous, Seigneur Dieu, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen.